Émilise Lessart-Terrien, bonjour. Vous êtes au congrès de l'UPA 2024. On est heureux de vous rencontrer. On voulait se parler justement la semaine dernière quand on a appris que vous deveniez co-porte-parole de Québec solidaire. Première question, vous êtes sorti de la politique d'une façon un peu médiatisée, on va dire, et certainement très difficile. Vous rentrez par la grande porte. Quel effet ça fait?
Je suis très contente de revenir à Québec solidaire, effectivement, par la grande porte. La dernière année, ça a été une année qui a commencé difficile avec la défaite, qui m'a permis de prendre un peu de recul aussi, puis de me poser les questions sur mon avenir, mais aussi sur la politique québécoise en général. Puis quand l'opportunité est venue de me lancer dans la campagne pour succéder à Manon, j'y ai réfléchi, j'ai décidé de me lancer. Et là, de revenir par la grande porte, d'ajouter une voix rurale, régionale au caucus de Québec solidaire, je trouvais ça super important parce que Québec solidaire, c'est un parti politique pour l'ensemble du Québec. Je pense qu'on a du travail à faire pour que l'ensemble du Québec se reconnaisse en nous. Puis moi, je pense que j'ai des cartes dans ma manche pour faire en sorte d'y arriver.
Alors justement, vous êtes l'image des régions et de l'agriculture pour Québec solidaire. Beaucoup de gens l'ont dit, beaucoup de médias l'ont traduit d'ailleurs. Je dirais que vous êtes un petit peu le Jean Garon du Parti québécois. Vous êtes l'équivalent de ce que Jean Garon était, parce que Jean Garon avait fait la tournée des radios à une époque, en 75-76, avant les élections. Et René Lévesque l'avait identifié comme étant le porteur des régions. Mais c'est beau d'être le Jean Garon d'un parti. Mais est-ce que, comme Québec solidaire est très centralisé sur Montréal, est-ce que vous êtes capable, en fait, de rendre Québec solidaire, je dirais, rentable, bancable, en fait, auprès des régions, sachant que les agriculteurs, des fois, ont un peu peur de Québec solidaire en raison de vos causes pour l'environnement?
C'est très drôle qu'on me compare comme ça à Jean Garon, parce que lors de notre congrès, il y a quelqu'un qui est venu me voir après mon débat pour me parler de Jean Garon, puis qui reconnaissait qu'il y avait quelque chose de similaire. Ça me fait toujours très plaisir. Sur le fond de la question, tu sais, moi, je pense qu'il y a beaucoup de points en commun entre Québec solidaire, entre l'agriculture, entre les régions du Québec, en ce sens où, tu sais, on arrive ici à l'UPA, là, ça va être 100 ans l'année prochaine de syndicalisme, d'entrepreneuriat collectif. Il y a un esprit collectif très fort de mise en commun de nos ressources, de travailler ensemble, un esprit de communauté très fort qu'on a aussi dans les régions du Québec. Il y a plein de villages là qui se sont construits il y a pas si longtemps à coup de sueur, puis à coup de solidarité, puis à coup de billes, puis de rassemblement pour OK, on lève des granges ensemble, on construit des maisons. Tu sais, il y a ce fond de solidarité là, de communauté qui est encore très fort dans l'arrière-pays du Québec, puis qui est pas tellement loin dans notre mémoire là, les quatre dernières générations que ça s'est passé. Puis Québec solidaire, c'est un parti qui porte le bien commun puis le collectif. Fait qu'on est, on travaille sur les mêmes bases. Maintenant, c'est de parler à travers des repères puis des référents dans lesquels les gens vont se reconnaître. Fait que quand on parle, par exemple, de services publics, ben comment les services publics sont vécus, tu sais, dans les territoires ruraux, dans la région, dans les milieux qui sont peu densément peuplés, comment cet écosystème local-là fonctionne, puis d'être capable de, tu sais, d'avoir des bons exemples, des bons référents. Moi, je parle souvent, tu sais, dans le réseau de la santé, par exemple, la conjoncture actuelle veut qu'on aille beaucoup vers la spécialisation, vers une médecine à la fine pointe. Mais dans les régions du Québec, ce qu'on a besoin, c'est la polyvalence. On a besoin d'avoir des chirurgiens qui sont encore capables de faire des césariennes pour que les femmes puissent accoucher localement, tu sais. Fait moi, c'est ça que je veux amener, c'est cette perspective-là, cette lunette-là qui est propre au milieu plus éloigné, peu densément peuplé, pour que dans notre grand discours, ben quand on parle de transport collectif, oui, qu'on soit capable de parler du tramway de Québec puis du REM de l'Est à Montréal, mais qu'on soit aussi capable de parler de transport interurbain puis des besoins que les communautés ont dans les milieux ruraux de se déplacer sur le territoire parce qu'il n'y a pas d'alternative à l'auto-solo, par exemple.
Sur l'occupation du territoire, j'imagine effectivement vous allez répondre à certains questionnements des régions qui se sentent un peu délaissées. Mais je reviens un petit peu sur l'environnement, parce que j'ai entendu ici au congrès de l'UPR, les producteurs sont aussi inquiets, même actuellement, face au dédale administratif lié à ce qu'il faut remplir pour respecter l'environnement, pour les écofrais. Donc ils ont beaucoup d'inquiétudes sur leur entreprise parce que l'inflation est là. Et des fois, on a l'impression qu'ils mettent un petit peu l'environnement de côté, les producteurs.
Mais c'est sûr que tu sais, les producteurs ont énormément de pression. C'est l'industrie qui fonctionne, le secteur économique qui fonctionne le plus en fusion avec la météo. Fait que les aléas météorologiques, c'est très fort chez les agriculteurs. Et ils sont donc beaucoup plus sensibilisés aux enjeux d'adaptation climatique. Après, il y a tout l'inflation, il y a l'endettement, il y a le prix du carburant, le prix des intrants qui a énormément augmenté. Puis au bout de la chaîne, tu sais, fois les producteurs, ils en ont pas beaucoup pour leur argent. C'est pas du monde, mais il y a des entreprises qui sont florissantes, que ça fonctionne bien, tout ça. Mais il y a une grande part de notre agriculture où ce sont des petits qui ont de la misère à boucler les fins de mois, puis c'est des familles qui vivent sur les prestations familiales. Là. Ça existe beaucoup là, des producteurs qui sont pas capables de tirer de revenus de leur ferme, qui vont payer un salaire à leurs employés avant même de se payer, de se verser un salaire pour eux-mêmes. Et ça là-dessus. Le gouvernement du Québec a des leviers, notamment pour... Nous, ça passe beaucoup par la souveraineté alimentaire, là, parce qu'en ce moment, nos producteurs sont en compétition avec le monde entier. Ça, déjà, c'est un enjeu. Tu sais, on est très exigeants, les Québécois, en termes de d'agro-environnement, en termes de bien-être animal. Mais quand on va manger de la crème glacée avec du lait diafiltré qui vient des États-Unis, ben ça, c'est un enjeu. Les tomates du Mexique qui se vendent meilleur marché parfois sur nos tablettes que la tomate locale ou qui va être servie dans nos institutions. Puis pour nous, Québec Soldat, c'est là qu'on a identifié nos principaux leviers. C'est à travers l'institutionnel. L'État du Québec, c'est un grand consommateur d'aliments. À travers ses cafétérias dans ses hôpitaux, ses CHSLD, dans ses CPE, dans ses écoles. Et donc, si on vient sécuriser une demande pour des produits alimentaires québécois de proximité, on vient garantir un marché à nos producteurs, mais là, tout d'un coup, de faire la transition vers du biologique ou d'investir pour améliorer ses pratiques culturelles à la ferme, ben là, tout d'un coup, il y a plus d'intérêt si on sait qu'au bout du compte, notre produit, il va être acheté, puis il sera pas mise en vente sur les marchés mondiaux, puis que là, ben si l'Ukraine a une mauvaise récolte, ben ça va faire augmenter les prix ici, mais si l'Argentine a une très bonne récolte, ça va faire diminuer les prix. T'sais, ça n'a pas de bon sens. Là. On ne peut plus gérer notre agriculture dans un système mondialisé comme c'est en ce moment.
Alors, sur deux questions d'actualité, et puis deux questions qui vont peut-être se rejoindre, la crise porcine et le zonage agricole. La crise porcine, parce que c'est ce dont on entend le plus parler actuellement au champ, les producteurs nous appellent, même certains nous ont envoyé des lettres anonymes au journal en disant « aidez-nous, c'est compliqué, le gouvernement ne nous entend pas ». J'aurais envie de vous dire, la SRA, l'assurance stabilisation des revenus, qui est en fait attribuée aux producteurs indépendants et aux producteurs intégrateurs, est attribuée de façon un peu différente, parce que les cotations sont un peu différentes, mais il reste que tout le monde y a le droit depuis les libéraux, depuis 85. Et certains producteurs indépendants se posent la question si finalement, même si c'est légal, c'est normal que les intégrateurs touchent la SRA, ou du moins s'ils ne devraient pas ouvrir leur livre pour que toute leur chaîne de production soit connue.
Mm-hmm. Ben, je pense que quand on reçoit des subventions ou des fonds publics, la transparence, elle est de mise. Maintenant, sur l'industrie porcine, je pense qu'il va falloir se poser des questions à l'avenir sur comment on veut la développer, notre industrie porcine au Québec, considérant que le marché des exportations est de plus en plus difficile. Comment est-ce qu'on va affronter ces défis-là qui nous attendent? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Je pense qu'il va falloir avoir la discussion. Puis sur un autre aspect, on a quand même l'avenir de l'agriculture va aussi passer par la diversification pour répondre à nos besoins alimentaires d'abord. Fait que oui, d'avoir une diversité de production agricole pour qu'on soit moins dépendant. Parce qu'on est autant dépendant du marché d'exportation que du marché d'importation aussi. Puis en ce moment, tu sais, en céréales, par exemple, on dépend beaucoup, beaucoup de l'Ouest pour notre approvisionnement. Fait qu'il va falloir se poser la question, tu sais, de la diversification de nos cultures pour augmenter notre souveraineté alimentaire. Et ça va aussi passer par la diversification de la taille de nos entreprises agricoles. Puis on le sait, plus il y a une concentration, plus on met nos œufs dans le même panier, plus nous sommes vulnérables. Puis on l'a vu dans la pandémie, on a de moins en moins d'abattoirs au Québec. Quand il y a eu des éclosions de COVID dans des abattoirs, et là, c'est toute la chaîne qui déraille.
Tu parles justement de concentration. Concentration, ben on en parle justement dans le porc, puisque 80% des porcs actuellement sont abattus par Olimel. Donc ça, c'est un beau système de concentration. Autre concentration potentielle qui rejoint l'autre sujet, qui est le zonage agricole. On sait que le ministre de la Montagne a lancé une grande consultation sur le zonage. La partie la plus intéressante s'en vient, à savoir à qui appartiennent nos terres. C'est le troisième fascicule qui va être découvert sous peu. On n'a pas beaucoup parlé de ça, en fait, au Congrès de l'UPR, effectivement. Sauf que le ministre, on est dans une envolée à la fin de son intervention, a dit un des producteurs qui l'avait un petit peu chatouillé, je pense, lui a dit « Écoutez, c'est compliqué la vie de ministre de l'Agriculture. De toute façon, il dit, parfois, même dans certains dossiers, c'est vous-même qui achetez les terres. » Donc, c'est la première fois que j'ai entendu le ministre verbaliser ceci, ce que souvent on a entendu dire, qu'effectivement, Oui, il y a des achats de terres qui se font en grande quantité, mais souvent c'est les producteurs qui vendent et c'est aussi souvent des producteurs qui rachètent. Et il y a une certaine concentration aussi dans ce domaine-là.
Il y a toute une question à se poser sur qui possède les terres agricoles au Québec, qui peut les acheter. Puis Québec solidaire a déposé un projet de loi cet automne pour justement la création d'un registre public des transactions agricoles pour justement savoir qui possède quoi et à quel prix les terres ont été achetées. Interdiction d'achat par des non-agriculteurs pour empêcher les spéculateurs ou les fonds d'investissement d'acheter des terres agricoles. Mais peut-être qu'éventuellement, la question qu'il va falloir se poser aussi, là, peut-être que j'ouvre une boîte de Pandore, mais il va falloir se poser la question sur une possession maximale de terres agricoles au Québec, justement pour s'assurer que ce ne soit pas tout le temps les gros qui rachètent les petits, puis à un moment donné, c'est que ça vient tellement des blocs de terres immenses qui ne sont plus achetables par la relève, et on sait que c'est difficile de morceler des terres agricoles, t'sais, sur la rentabilité, sur tout ça, donc il faut prévoir des mécanismes pour éviter la concentration, oui, de la possession de la terre agricole. Est-ce que ça passe par un plafonnement ou pas? Je pense que toutes les options méritent d'être mises sur la table, mais il y a un danger réel de la concentration. Puis plus c'est concentré, ben plus après, c'est quelques joueurs qui détiennent le tout. Puis encore là, on se retrouve avec le même problème. On devient vulnérable, on est peu résilient. Puis quand ces gens-là vivent des difficultés, doivent se départir ou peu importe ce qui arrive avec leurs entreprises, qui peut les racheter? Ben là, on est encore juste dans une dynamique de concentration constante.
Merci, Émilie, d'avoir pris ce temps-là pendant le congrès avec nous.
Ça me fait plaisir.